Alors les amis, j'aimerais savoir improviser, moi. Un événement, une excuse, une date, un discours, n'importe quoi. Vous me dites un mot comme ça et je déroule avec une verve, une liberté, une confiance à faire pâlir Edouard Baird. J'aimerais savoir improviser, ce qui se passe toujours quelque chose quand on improvise dans la vie, c'est une philosophie. On a tout préparé quand soudain, l'inattendu qu'il faut savoir saisir vous force à inventer. Ça tient à rien, une note, une idée, un accident qui sont autant d'invitations à l'imagination. Comme les musiciens de jazz qui, au beau milieu d'un morceau, se mettent à sourire. Vous savez, parce qu'ils n'avaient rien prévu de ce qui était en train de se passer et ils sont littéralement dans le feu de l'action devant nous en train de composer. Michel Portal, Michel Legrand, tous les Michel qui sont venus à ce micro et dont je me souviens de l'art de la surprise, de l'art du pied levé. J'aimerais savoir improviser pour lever le pied justement, pour résister à la rigueur, à la rudesse d'aujourd'hui, arriver devant ce micro avec une feuille blanche et pas savoir le mot et le moment qui suit surtout. Et si je tremble, si je trébuche, si je tombe, bah tant pis, j'aurai cette sensation de vertige et d'enivrement tout en même temps, le cœur qui s'emballe, le corps tout flagada, les variations de la voix, je me sentirais vivant. J'aimerais savoir improviser, ce qui n'a jamais voulu dire lâcher prise complètement, du moins pas seulement improviser, c'est une maîtrise avant d'être une liberté. Demandez à Bill Murray.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est un maître de l'improvisation. SOS Fantôme a fait de lui l'un des acteurs les plus cultes des années 80. Il s'est réinventé au tournant des années 2000 chez Sofia Coppola, chez Jim Jarmusch ou encore chez Wes Anderson. The French Dispatch, en salle mercredi, c'est le titre de leur 9e collaboration. Une célébration virtuose, archi-précise et rétro de la grande époque de la presse papier, dans laquelle il joue un directeur de journal paternel et flegmatique dans la petite ville française d'Ennui sur Blasé. Bonjour Bill Murray.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là. Tout d'abord, qu'est-ce qui fait la beauté de l'improvisation pour vous ?
C'est la capacité que vous avez de réagir à l'instant, de pas arriver avec ses préjugés, se laisser porter par ce qui se passe dans la scène, dans le moment, avec les réactions de vos partenaires, avec ce qui vient de se passer et avec ce vers quoi vous voulez vous diriger, là où vous voulez tomber. La plupart des impros que j'ai faites au cinéma, ça a été toujours la même chose. On a une scène écrite qui n'est pas particulièrement efficace parce qu'elle n'est ni drôle ni instructive sur le personnage. Et là, je trouve que ça vous donne la chance d'être et drôle et instructif.
Mais dans quelle mesure, Bill Murray, le cinéma, c'est un art qui offre aux comédiens la liberté d'improviser ?
C'est un peu la même chose qu'au théâtre, mais un scénario de film n'est jamais qu'en deux dimensions. Moi, quand j'arrive sur le plateau, c'est là le moment où la troisième dimension se met à exister. La troisième dimension apparaît. Et dans cette troisième dimension, il y a des choses qui n'appartiennent pas au scénario. Et un acteur en a conscience, il les voit. Mais tout ça n'a rien à voir avec l'irruption créative qu'on associe d'habitude avec les grands improvisateurs comme Jonathan Winter, des gens comme ça. C'est vraiment être capable de voir le truc qui manque un peu. Et c'est surtout un boulot de mise en lien entre la scène en cours et la suivante qu'il faut introduire. C'est un peu comme de la menuiserie d'art.
Vous savez, je pense évidemment tout de suite au cinéma de Wes Anderson où chaque image semble pensée au détail près, où chaque mouvement semble chorégraphié. Dans ce cadre-là, de quelle marge de manœuvre est-ce que vous disposez pour improviser, justement ?
Alors, c'est vraiment un cadre très précis. C'en est presque marrant. C'est presque à pisser de rire. Et en même temps, pour ce dernier film avec lui, je suis arrivé en retard. J'ai attrapé le Covid et je me suis pointé un mois après. Et Wes avait déjà refilé mon rôle à un autre. Et il m'a dit, bah, viens quand même, parce que peut-être qu'un autre va tomber malade, ou alors je t'écrirai un autre rôle. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a écrit un autre rôle, en tout cas une idée. Et dans cette situation, j'ai pu parler et improviser, ce qui est très très rare, et il a bien aimé, en fait.
Moi, ce que j'adore, Bill Murray, c'est quand vous racontez des histoires, en fait. Et dans The French Dispatch, vous jouez le patron d'un journal inspiré du magazine américain The New Yorker. Votre travail, c'est de chapeauter l'équipe de reporters qui travaillent pour vous et de lire les histoires qu'ils vous proposent. Je me suis demandé, vous aimez ça, vous, qu'on vous raconte des histoires ?
Même si moi, je suis une vraie pipelette, je préfère de loin que quelqu'un raconte des blagues ou me raconte une histoire. Si la personne sait parler, je préfère la fermer et me taire. J'arrive enfin à un âge où je sais mieux apprécier le silence. Et voilà mon ambition aujourd'hui. Arriver à me taire, arriver à la fermer.
Mais si on revient aux origines quand vous étiez petit, de quelles histoires est-ce que vous raffoliez ?
Je crois que j'aimais les histoires que mes parents racontaient sur leur vie passée. Leur génération avait traversé la Deuxième Guerre mondiale, la dépression, ces périodes dures, et ils n'en parlaient jamais, mais pas du tout. C'était très étrange. Jamais un mot. Ils ne racontaient jamais leur souffrance. Les gens ne parlaient jamais de la guerre, de ce qu'avait été leur expérience pendant une guerre. Ils ne parlaient jamais de la Grande Dépression, combien c'était dur. Alors, il me manquait une pièce au puzzle. Et c'est ce qui a été la base des 60s, c'était arriver une nouvelle génération qui avait besoin de se libérer de ce carcan. Ils devaient vraiment changer les choses. La jeunesse devenait réactive. Écoutez les mecs, ce que j'ai à dire, je vais le dire. C'était ça la révolution, comme à Paris en 68, ou à New York dans les années 60. Et les mecs, on va pas vivre comme vous, pas comme nos parents, non. On va l'ouvrir.
Alors, ce que vous dites, ça m'évoque une question que je trouve passionnante. Qu'est-ce qui fait une bonne histoire pour vous, qui êtes un raconteur d'histoire?
Vous pouvez toujours avoir un pote qui vous raconte des blagues sur un truc qui lui est arrivé. Et c'est marrant, surtout quand vous avez bu un verre de trop. Bon, ça c'est marrant. Mais pour moi, une blague, c'est une histoire par laquelle quelqu'un te montre où il se situe dans le monde, dans l'humanité. Comment un truc l'a frappé et comment il a pu le décrire à la lumière de tous les gens autour de lui. Il a pu dire qui il est et qu'il partage son existence avec tout le monde. Il partage sa vie, il en a conscience et ça l'a rendu capable de voir quelque chose. Et de s'en rappeler pour plus tard. Ça a été pour lui un moment de clairvoyance.
Et c'est pour ça qu'on a tant besoin d'histoire, alors.
Ce sont des moments de partage, d'humanité, c'est pas exactement de l'histoire. Ce superbe film français, c'est Le Retour de Martin Guerre. Et ça, c'est une histoire ancienne dans un village français, une histoire vraie, qui a été redécouverte dans les années 60 ou 70. Et là, la France a décidé de réexaminer cette histoire. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu beaucoup plus de ce genre d'histoire. Mais c'est un film et une histoire géniaux.
Celle qui nous raconte des histoires dans cette émission, vous la connaissez, Bill, c'est la culture et son actualité qui est un véritable tissu de mensonges. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 22 octobre?
Et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Le copain d'abord, il y a 100 ans, très exactement, le 22 octobre 1921, naissait Georges Brassens à 7. Pornographe du phonographe, chansonnier engagé, le séducteur à moustache et pipe laisse un héritage de près de 200 chansons, célébrant l'amitié, la grivoiserie, l'anarchie joyeuse. Pour fêter ce centenaire, une pluie d'événements et de célébrations. Sa ville natale propose notamment le festival 22 Vla Georges et 75 concerts gratuits. La revue Légende lui consacre l'intégralité de son cinquième numéro, avec des hommages des Delerme père et fils ou de Maxime Le Forestier. Et enfin, l'ami Morel, en binôme avec sa complice Yolande Moreau, livre un bel album de reprises inattendues et poétiques, c'est chic.
How do you do? I'm Alfred Hitchcock.
La Cinéthèque, quel cinéma ! La plateforme des cinéastes spécialisés dans les films d'auteur fait sa rentrée dès aujourd'hui jusqu'au printemps. Grâce à un partenariat événement avec la Paramount et Universal, elle proposera près de 180 classiques du 7e art. Et en premier lieu, un cycle Hitchcock avec pas moins de 19 réalisations du maître du suspense, dont les incontournables Psychose, Vertigo et Fenêtre sur cour. Parmi les autres événements prévus, un hommage à Spielberg, un focus Travolta et un cycle sur les monstres au cinéma. Allez là.
La vertu de l'enseignement était qu'après que j'avais donné mes heures à la République, elle m'accordait en retour un certain loisir pour, cette fois-ci je cite Montaigne, niaiser et fantastiquer.
Tout est doux chez Bergougnou. Le romancier, essayiste et sculpteur Pierre Bergougnou a reçu le prix de la langue française 2021 pour l'ensemble de son œuvre, une récompense prestigieuse à l'initiative de la ville de Brive et de sa foire du livre pour honorer la contribution majeure d'un écrivain à la qualité et à la beauté de la langue française. Auteur d'une œuvre dense, lumineuse sur la terre et sur l'intime, Pierre Bergougnou poursuit notamment depuis près de 40 ans l'écriture de notes réunies en carnets éclats de quotidiens, de pensées, de lectures. N'hésitez pas à réécouter pour l'occasion la belle émission qu'il nous avait offerte sur le site de France Inter ou en podcast. Et enfin, vendredi de vacances, on danse, parce qu'aujourd'hui, on aime Bruxelles, je t'aime, le nouveau morceau d'Angèle, et premier extrait de son album attendu pour la fin d'année. On branche aussi The Lockdown Sessions, le 32e opus du Royal Elton John, qui a invité Gorillaz, ou Stevie Wonder a poussé la chansonnette à ses côtés pendant le confinement. Et sinon, on fait craquer les sillons de chansons d'ennui de Jarvis Cocker, qui revisite avec Wes Anderson, justement, la chanson française des 60s, à l'occasion de la sortie du film The French Dispatch, Bill. Premier extrait à écouter en fin d'émission, la reprise d'Aline de Christophe, Cœur avec les doigts. Le comédien Bill Murray, invité exceptionnel de Boomerang ce matin pour The French Dispatch, le nouveau film de Wes Anderson. C'est votre 9e film ensemble, Bill. Comment ça a commencé entre vous? Parce que c'est lui qui est venu vous chercher, je crois.
C'était une histoire de coup de foudre, mais pas vraiment de la part de Wes. J'étais vraiment très sous pression. On m'envoyait des VHS de son premier film, Bottle Rocket, ses agents. Et j'ai maintenant la plus vaste collection au monde de cassettes vidéo de Bottle Rocket. Et j'ai pas encore vu le film. Alors au final, ils m'ont envoyé le scénario de Rushmore et ils m'ont demandé si je voulais le rencontrer. Et j'ai dit non. Et pourquoi pas? J'ai lu le scénario, le mec sait parfaitement où il va, vous me dites le jour où je dois me présenter. Voilà, je l'ai rencontré le premier jour du tournage. On n'avait pas besoin de parler, il savait exactement ce qu'il faisait. Et ça a été fantastique, c'est sans doute la première fois que j'ai vu ça, un scénario où tout est en place. Et où il n'y a pas grand-chose à discuter, à préciser.
Ça, c'est une bonne histoire, Bill Murray. La fidélité, ça veut dire quelque chose pour vous, vous qui, depuis une vingtaine d'années, retrouvez régulièrement les mêmes cinéastes. Je pense à Wes Anderson, évidemment, mais aussi à Jim Jarmusch ou à Sofia Coppola, qu'on a tous déjà reçus dans cette émission, d'ailleurs. La fidélité.
Voilà trois exemples. Et j'ai vraiment de la chance que ma vie professionnelle me permette de travailler pour des réalisateurs de la nouvelle génération, donc Wes, Jim, Sophia. Chacun sait très bien ce qu'ils veulent. On peut les surprendre, on peut leur donner plus de choses. Leur donner plus de choses et ils ont ce talent de dire « Ah ouais, j'aime ça aussi, on la garde ». Quand ils m'appellent, ces réalisateurs-là, je réponds vraiment, bon, ok, à quelle heure? Où on tourne?
Vous savez, ça m'évoque l'esprit de troupe quand même. Est-ce que vous diriez que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui dans l'industrie du cinéma?
Je fais sans doute pas assez de films pour dire que c'est rare. Mais les gens ont changé, moi aussi, en fait, de sentiments là-dessus. J'avais une grande attraction pour ce que c'est que l'équipe. Envie de soulager l'équipe. Vous savez, l'idée de l'entraide. Et chaque membre de l'équipe, il a la même importance dans la fabrication d'un instant de film. Il faut que le groupe fonctionne. Et puisque j'ai tourné dans pas mal de films, on peut toujours faire mieux et on peut toujours faire plus sur un tournage. Mon boulot, c'est pas impossible à faire, être acteur. Alors on peut regarder autour de soi et aider les autres. Cet esprit-là, je sais pas s'il existe tant que ça. Moi, je trouve que faire des films sous période de Covid, c'est complètement extraterrestre. Et plus les films deviennent techniques, pleins d'effets spéciaux, ça met de la distance entre l'équipe et les acteurs. Et ces derniers ne comprennent pas comment s'y prendre. Comment jouer. Les acteurs ne pigent pas grand-chose au fond vert, hein, comment ça marche. Et ils ne peuvent pas aider. C'est un peu comme si vous étiez un patient et que le chirurgien vous opère et vous êtes bien obligé de lui faire confiance. Hein. J'ai aucune idée de ce que vous fabriquez, docteur.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette industrie, Bill Murray, vous l'avez marqué, et ça fait plus de 40 ans que ça dure.
You're Bill Murray. Bill Groundhog Day Ghostbusting Ass Murray.
I know that, just don't tell anybody.
I'm reliving the same day over and over.
Ghost.
Hello, Ghostbusters.
I'm the chairman of the largest paranormal removal company in America.
Ghostbusters.
Hey, anybody see a ghost?
Coming to save the world.
Who you gonna call?
Ghostbusters.
There were three extraordinary children in the Tenenbaum family.
How interesting. Bizarre.
This is Bogus, Bunt, and Bean, three of the meanest, nastiest, ugliest farmers in his family.
Dear Don, years ago, I had a son. Your son, no return address.
Congratulations, you're a father.
Paul, where the hell are you?
Right here.
Does it concern you that your daughter's just run away from home?
That's a loaded question.
I want you on Team Sisu.
The answer's yes.
Well, it's got to be. I'll order you a red cap and a Speedo.
For relaxing times, make it Suntory time.
Gatto, 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 gatto!
時間がないんだよ。ね、パッションが。カメラ、テンション上げて。
With intensity.
Is that everything? It seemed like you said more than that.
You are a movie star.
Yes, I should be doing movies.
Yeah. Damn, that don't sound too good, Bill Murray.
Just a smoker's cough.
Bill Murray, pourquoi est-ce que vous êtes devenu acteur?
Well, my brother Brian was.
Mon frère Brian était comédien avant que je le sois. J'étais un gamin des années 60 en train de faire des conneries. Hein. J'étais en train de plonger. Et plutôt que de me faire pincer dans ma petite ville, j'allais dans la grande ville voisine pour voir mon frère sur scène. Je ne pensais pas du tout devenir comédien. Et à mon premier cours d'improvisation, j'étais tellement nul que je suis sorti pour marcher dans la rue. J'ai marché sur 80 pâtés de maison dans la mauvaise direction. J'étais en détresse, j'étais peiné. Vous parlez de ce que c'est que de raconter des histoires, ok? Moi, j'ai pris la route, j'ai fait d'autostop, j'ai traversé l'Amérique. Et à mon retour, je savais raconter une histoire, des histoires vraies. Et c'est là que j'ai appris. Vous savez, jouer la comédie, c'est vraiment raconter. À mon retour, je savais raconter une histoire. Et quand j'ai repris l'improvisation, j'y arrivais. J'avais appris à raconter une histoire.
Et dire, Bill Murray, qu'à l'époque, vous vous destiniez à une carrière de médecin, vous voyez, ça tient à pas grand-chose.
Ouais, je me prenais pour un intello. J'avais envie de faire quelque chose d'important. J'avais mes potes qui avaient tous des boulots que je ne voulais pas faire. Bon, je suis intelligent, je devrais être médecin. Après le lycée, j'ai étudié la médecine. Mais il y avait quelque chose sur l'humanité, enfin c'est toujours le même mot, mais la plupart des gens qui étudiaient avec moi, ils ne me faisaient pas vibrer. Ce n'était pas comme si j'étais avec eux. Et beaucoup, il me semblait, faisaient ces études pour faire de l'argent. Tout le monde voulait faire radiologue. Du fric à faire hein, en radiologie. Comme j'ai eu raison de me casser.
Cela dit, si on y réfléchit, être acteur au cinéma, ça a peut-être le pouvoir de réconforter, de soigner le spectateur aussi.
Oui, il y a de ça. Il ne faut pas trop se prendre au sérieux, mais je sais que quand les temps sont difficiles, les gens revoient une de mes comédies. Ça les remet au centre de quelque chose. Ils se disent, ça va, je ne suis pas tout seul. Pas tout seul. Quelqu'un peut voir la vie en rire et me faire rire. Donc je ne peux pas être seul. Il y a quelqu'un qui partage mes sentiments. Quand vous voyez un grand cinéaste, un grand acteur, ça vous touche et c'est des émotions qui vous envahissent et vous percevez dans votre corps que vous êtes en lien avec quelque chose de plus grand que vous. Et pour que ça marche, il faut que ce soit très bien fait, pour que, vous, pour que ça vous touche. Mais ça existe. Il n'y a que les bons qui arrivent. Moi, je ne suis pas un très bon, mais j'arrive à être passable et j'ai travaillé avec des très bons. Entre leurs mains, je peux faire un outil acceptable.
Alors on va se soigner, Bill, se soigner ensemble avec Jarvis Cocker qui reprend Aline de Christophe dans The French Dispatch de Wes Anderson. Vous êtes sur France Inter avec Bill Murray. Vous écoutez Boomerang, ne criez pas, on revient.
J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Il a plu sous cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, crié à lui pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais chaud de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherché sans plus y croire et sans son espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Je n'ai gardé que ce doux visage comme épave sous le sable mouillé. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Ah, j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne.
France Inter, Boomerang.
Alors c'est assez frappant, hein, voire un petit peu flippant, c'est Papa Ours qui aurait avalé Mamie Jacotte. Il a l'œil gris grizzly, la moue Winnie et l'air parfois un brin endormi, le comédien Bill Murray, invité de Boomerang ce matin pour The French Dispatch, film France Inter s'il vous plaît, en salle mercredi, le quotidien, on le disait, d'un magazine américain dont vous êtes le patron et installé dans la petite ville française d'Ennui sur Blasé, un film qui dit quelque chose de la relation qu'entretient Wes Anderson avec la France. Tiens, la France, quel pays est-ce que c'est pour vous qui y avez vécu, Bill ?
Well, j'adore la France. J'adore la France en Cannes.
À Cannes.
En Cannes, c'est l'hystérie.
En Cannes, c'est l'hystérie.
Mais cette fois,
mais
for the
cette
first
fois-ci,
time,
pour la
I
toute première
swimming.
Fois, je suis allé nager. D'habitude, le festival, c'est...
C'est l'heure pour l'interview. C'est l'heure pour le film. C'est l'heure pour la limousine.
Bon, alors c'est marrant, c'est hype, c'est ma vie.
But, cette fois, je marche toute la ville, je marche, je visite les musées, etc.
Il paraît que quand vous viviez à Paris, vous passiez vos journées à la Cinémathèque. Est-ce que c'est vrai?
Oui, j'attendais le Sorbonne le matin, étudier l'anglais français. Et l'après-midi, je vais à la Cinémathèque.
Alors, c'est très intéressant, parce qu'effectivement, à la Cinémathèque de Paris, lorsque vous viviez à Paris, vous avez aussi vu beaucoup de films de Buster Keaton. Quelle source d'inspiration est-ce qu'ils ont été pour votre jeu d'acteur, ces films muets, Bill Murray?
Well, it's probably
c'est sans doute le meilleur de tous.
Charlie Chaplin,
Chaplin
fantastic.
C'est fantastique. Chaplin composait ses musiques. Mais Keaton composait... de la comédie pour son corps, avec des cascades très, très dangereuses. C'est tellement beau à voir.
Mais pour moi,
à cette époque, Il n'était pas reconnu comme il est aujourd'hui.
C'est intéressant parce que, à vous entendre, depuis le début de cet entretien, j'ai l'impression que les mots sont très importants pour vous, mais c'est aussi quelque chose dont on peut se passer, le langage. Bill Murray.
Yes, the silence.
Oui, le silence.
I think it's more important than noise.
C'est plus important que le bruit.
D'ailleurs, quand on est dans une salle de cinéma, Bill, on ne parle pas, on reste silencieux.
It's true.
C'est vrai.
And only, the only sounds,
et les seuls sons screen, hors du film sont les réactions du public. Quand un film arrive à faire que son public produise un son, c'est absolument fantastique. Un rire, un sursaut, des cris, obtenir une réaction, c'est l'idéal d'un réalisateur.
Mais quel lieu est-ce que c'est pour vous la salle de cinéma, Bill Murray?
Quand
je débutais, j'allais voir le film que j'avais tourné le jour de la sortie, juste pour voir si les gens aimaient. C'est un fait, quand vous dites quelque chose dans un film, quand vous racontez une blague, que vous vouliez faire le marrant, vous attendez pendant des mois et des mois pour que quelqu'un en rie. Et quand vous allez voir le film et que vous dites quelque chose à l'écran et que 100 personnes rient, oh mon Dieu, c'est une libération. C'est le moment où vos rêves et vos souhaits se réalisent. Car vous voulez être drôle, vous voulez plaire, vous voulez émouvoir. Et il vous faut attendre si longtemps pour avoir la monnaie de votre pièce. Mais pour moi, c'est magique. Magique, c'est un mot galvaudé, mais c'est presque comme donner la vie. C'est un changement de saison.
Mais vous vous souvenez des salles de cinéma de votre enfance dans l'Illinois? Est-ce qu'elles existent toujours?
Il y en a une qui existe encore. Mais beaucoup étaient des palais grandioses. Aujourd'hui, elles ont été divisées en 5 ou 6 salles. C'est rare de voir un film sur un très grand écran, vraiment grand. De voir The French Dispatch à Cannes sur cet écran immense avec tout ce monde. C'en est le plus grandiose exemple, mais voir un film avec beaucoup de gens. Il y a un cinéma splendide à New York face à Central Park qui s'appelle le Paris. Et c'est un endroit magnifique. Il y a quelques années, Sofia Coppola a réalisé une émission de Noël qui s'appelait The Merry Christmas. Et la projection se déroulait au Paris. C'était produit par Netflix, mais montré dans une vraie salle. Et la musique était super, le casting était génial, George Clooney, Miley Cyrus, et on l'a découvert là. Après chaque numéro musical, les gens applaudissaient. Je me suis dit, mais voilà ce que c'était que le cinéma dans les années 40. Les gens voyaient une comédie musicale et ils l'applaudissaient à la fin.
Mais Bill, quel avenir pour le cinéma?
À la télé, on voyait. Il y a ce mec qui possède IMAX, vous savez, les salles géantes, les écrans énormes. Et il est toujours très optimiste, lui, sur le business du cinéma qui va revenir, puisque tout s'était effondré après le Covid. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'une fois que les gens vont pouvoir se rassembler, comme avant, que les gens vont s'enthousiasmer à l'idée de retourner au cinéma. Et même dans ces petites salles étriquées, là, on est serrés les uns contre les autres, qu'elles soient remplies, que le public soit serré, que cela renforce finalement, je crois, le pouvoir du cinéma.
You can make films that weren't just necessarily of a, you know, I don't want to complain about the.
Moi, j'ai pas envie de me plaindre des films d'action, des blockbusters de science-fiction, tout ça, car ces films, ils emploient beaucoup de monde, d'abord, et puis beaucoup de gens vont les voir. Et l'argent produit permet aux studios de varier leur production. Parce que la France, c'est un cas à part. Elle produit beaucoup de films d'auteurs. Et il faudrait que ce soit comme ça partout.
Mais vous savez pourquoi je vous pose la question, Bill? Parce que mine de rien, le film de Wes Anderson, c'est un film qui nous invite à réfléchir au passé et à tout ce qui disparaît avec les années. Et je me suis demandé, ce sera ma dernière question, le temps, ça représente quoi pour vous?
Je vais essayer de ne pas répéter les paroles d'un autre, de trouver mes mots à moi. On a la possibilité de perdre du temps. Et tous, on en perd tellement. Et je vois ma vie et je me dis, qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que t'as fait de ta vie? Mais regarde-moi quand je te parle. J'ai oublié de vivre. Si vous faites l'effort sincère de vivre votre vie, pas simplement de vous jeter dedans, mais de laisser la vie venir à vous. Il faut s'en donner le temps. Et là, le temps devient plus riche, bien plus rare, bien plus utile. Et plus on utilise le temps qui nous est donné, plus on laisse s'entrer la vie. Plus on revient à l'idée que ce que je fais sur cette terre, c'est de me comprendre moi-même. C'est ça mon boulot. Et c'est pas pour mon bénéfice, c'est aussi pour les autres, sur la terre comme au ciel.
Merci. Merci tellement. Merci infiniment, Bill Murray, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Et merci à votre interprète ce matin, Harold Manning. Je rappelle que The French Dispatch de Wes Anderson, avec Tilda Swinton, Léa Seydoux, Benicio del Toro, Timothée Chalamet, Lina Koudry, Mathieu Amalric ou encore Frances McDormand, sort mercredi. Et que c'est un incroyable tour de force, un monde dans lequel vous rentrerez forcément fasciné. Merci à vous et merci à toute l'équipe de Boomerang, Lola Costantini, Perrine Malinge, Léonard Billot, Pierre Démé, Jérôme Humbert et Jean-Baptiste Audibert, tout de suite les médias, Sonia De Villers, juste après ça.
Colors fool my brain as daylight fills my window. What a fool I was to sit and watch you go. Falling through my arms like whispers through my heartstrings. On and on.
Belle la vie, beautiful life, Michael Kiwanuka, 9h40 sur France Inter, Sonia De Villers, l'instant M, ça va chère Sonia?
Ouais, elle est belle la vie, si elle est belle la vie. Bon bah salut Augustin, bon week-end, retour de Boomerang lundi matin.
Toujours.
Ciao.